Chapitre 24. Les biberons sont déjà stérilisés et prêts, au cas où. Il n'y a plus qu'à chauffer et servir les deux gloutons. Lucie tendit le gros sac rempli de couches, de crème hydratante, de lait en poudre et autres matériels à Francine, une assistante maternelle à qui elle confiait Jules et Adrien pour la quatrième fois et qui serait leur nourrice d'ici une dizaine de jours lorsque la jeune maman aurait repris le travail. La femme, d'une cinquantaine d'années, habitait à Montrouge, une ville voisine, et était une connaissance de Jacques Levallois, l'un des lieutenants de l'équipe. Une femme fiable, gentille, qui, de toute évidence, connaissait son job et savait s'occuper des nouveau-nés comme personne. « Vous les récupérez à quelle heure ?» demanda Francine. Lucie regarda sa montre. Il était 10h30. « Probablement en milieu d'après-midi, je ne sais pas encore, mais je vous tiendrai au courant. Et vous m'appelez au moindre problème. Vous avez aussi le numéro de leur papa ?»« Il n'a pas changé depuis la dernière fois, je suppose. » Lucie embrassa ses jumeaux, confortablement installés dans une coque, côte à côte. Il tentait une espèce de sourire édenté, ce qui faisait craquer Lucie chaque fois. Le petit pli oblique d'Adrien se creusait comme un second sourire. « Trop mignon, mes cœurs !» Elle leva un œil vers Francine. « Prenez bien soin d'eux. À tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas !» La porte du pavillon se referma. Lucie ressentit une petite pointe à l'estomac de les abandonner ainsi, mais en même temps une étrange excitation. Après tant de mois d'enfermement, elle éprouvait le besoin de respirer, de marcher, de vivre, de vibrer aussi. Elle rejoignit sa voiture et démarra, en route vers une destination noire qui la propulsait au cœur d'une enquête sordide. Une enquête qui ne lui appartenait pas. Pas encore. Contre son gré, ses fichus démons étaient revenus, ceux qui la poussaient à traquer, à s'acharner. Elle risquait de blesser Charcot. Elle se faisait du mal parce que, en définitive, elle cherchait des réponses, mais il n'y avait pas de réponse au mal. Vous boucliez un meurtrier et un autre apparaissait ensuite, 10 fois pire. C'était une traque sans fin qui vous usait, vous laminait, et contre laquelle vous ne pouviez pas lutter. Une traque qui lui avait volé ses 2 filles jumelles. Elle monta le son de la radio et quitta la 1 au niveau de Senlis. Elle roula encore une bonne demi-heure, s'enfonçant toujours plus loin dans la forêt, s'approchant au plus près du premier endroit décrypté dans le carnet et indiqué par son GPS. L'appareil l'orienta par la suite sur une petite route qui s'enfonçait dans la forêt et se terminait en cul-de-sac. Elle se rangea sur le bas-côté et poursuivit donc à pied. Elle avait bien fait d'enfiler un jean et un sweat à manches longues, même si elle étouffait et avait la gorge sèche parce que les branchages se plaquaient contre elle. La lumière se déversait avec mollesse à travers les feuillages, et il n'y avait aucun sentier. Par précaution, Anne-Belle avait enregistré l'endroit où était rangé son véhicule sur le GPS. Elle longea un grand étang sur 200 mètres jusqu'à ce que son appareil lui indique qu'elle était arrivée. Elle discerna alors une structure en bois sur la gauche vers laquelle elle se dirigea. Elle poussa la porte et se retrouva dans une pièce unique. Il s'agissait sans doute d'un vieux poste d'observation d'oiseaux ou peut-être d'une ancienne hutte de chasseurs, mais la nature y avait repris ses droits. D'après le carnet, le kidnappeur était venu ici à 4 reprises. Par exemple, à 22h40 en février 2011, il y avait plus d'un an et demi, avec une fille codée B-02.03-07.09-12.15-02.05. Pour quelle raison? Pourquoi s'enfoncer si profondément dans un bois, en pleine nuit, et venir dans cette stupide cabane, difficile d'accès et située au milieu de nulle part? Lucie examina avec attention chaque recoin, chassa les feuilles du pied. L'eau de pluie avait pénétré ici. La toiture était défoncée, la végétation poussée de façon anarchique. elle tourna sur elle-même et finit après 10 minutes de recherche par abdiquer. Il n'y avait plus rien à trouver dans ce local. Au pire, les équipes de police reviendraient avec des détecteurs, des chiens. Si un corps était enterré à cet endroit, on le trouverait. Lucie lut une autre feuille imprimée et entra le 2e groupe de coordonnées. Le kidnappeur y était venu à 3 reprises cette fois. L'appareil indiqua une distance de 1,2 km plus loin dans la forêt. Une fois sur place, nouvelle déception. Il s'agissait de 2 gros rochers, sans doute des menhirs, placés l'un à côté de l'autre. Lucie eut beau chercher autour, ou sur la pierre elle-même, en quête d'un message, elle ne découvrit rien. Ça commençait à l'agacer franchement. Dernier endroit, encore 2 kilomètres à se farcir, dans la direction opposée. Lucie prit son courage à 2 mains et se mit en route. Ses jambes pesaient et commençaient à lui faire mal. Manque de sport, de marche, de tout. Elle tomba finalement à 200 mètres de sa destination sur un grillage en mauvais état. Un panneau rouillé pendait. Propriété privée, défense d'entrée sous peine de poursuite. Lucie longea la cloison et trouva sans difficulté une brèche dans laquelle elle s'engagea. Les arbres étaient partout. Serré, penché, agonisant pour certains. Plus loin, une puissante bâtisse aux vitres explosées, aux portes inexistantes, se dessina. Abandonnée depuis longtemps, de toute évidence. Lucie s'avança en pensant à l'auteur du carnet. Lui aussi avait dû suivre ce chemin, entraînant peut-être avec lui de pauvres filles qu'il avait enfermées, rasées, tatouées dans une cachette quelconque auparavant. Elle imagina les pires scénarios et se rappela cette voix glauque, lente, déversée par l'enregistreur numérique. Les grenouilles au ventre ouvert par un scalpel lui avaient laissé une image indélébile dans la tête. Lucie ne se sentait plus aussi sûre d'elle, subitement. Elle n'avait pas d'armes, rien pour se défendre. « Il n'y a aucune raison pour que ça tourne mal, » pensa-t-elle. Cet endroit semble abandonné depuis si longtemps. Elle pénétra dans la bâtisse par l'entrée principale. Le sol était poussiéreux, sale, boueux par endroits. Les murs tombaient en lambeaux, prisonniers de l'humidité. Lucie s'engagea dans le vaste hall au plafond très haut. Face à elle, 2 escaliers partaient à droite et à gauche pour se rejoindre à l'étage supérieur. Les pièces étaient vides. Dans certaines, le lierre se faufilait par les fenêtres, colonisait les murs, tout comme les tags d'ailleurs. Des dessins en relief, des lettres bombées, noires, rouges, vertes, qui habillaient chaque mètre carré. Lucie soupira. C'était trop vaste, trop usé, rongé par le temps. Qu'avait-elle espéré y trouver? Peut-être y avait-il des indices à découvrir, mais cela nécessiterait le travail de plusieurs enquêteurs, ratisser l'endroit en long, en large, dans quel but finalement? Combien de squatteurs étaient venus s'installer ici entre-temps? Combien de promeneurs curieux? S'il y avait un corps quelque part, ne l'aurait-on pas déjà signalé? Après un tour à l'étage, elle redescendit, déçue, jetant un œil à droite, à gauche, au sol, sur les murs, partout. Elle s'était emballée à cause de ce maudit carnet. Elle avait fait n'importe quoi, réagi comme une gamine. Elle en était consciente. Ici, au milieu de nulle part, elle se sentait stupide. Elle aperçut une autre issue qu'elle n'avait pas encore explorée. Un escalier descendait. Le sous-sol. Une bouche noirâtre s'ouvrit devant elle. Partout de la tuyauterie rampante, des salles transversales obscures. La gorge serrée, elle atteignit une immense cuisine avec une minuscule fenêtre au ras du sol, de vieux fours en ruine, un carrelage démoli, des hottes rouillées. Même des crochets pendaient depuis le plafond. C'était glauque, effroyable. Lucie songea à ces châteaux de l'ancien temps où de riches chasseurs se réunissaient, dépeçaient leur gibier et festoyaient. À ce moment, ses yeux captèrent quelque chose sur le mur de gauche. Elle balaya le faisceau lumineux et figea son geste en découvrant le symbole des trois cercles. Identique à ceux reproduits à l'infini sur le carnet. Il était réalisé au simple marqueur noir sur le mur du fond. Lucie s'approcha et put lire. « Suis venu et attendu. Livraison 02.03-07.08-09.11-04.19 urgente. Retrouve C au fleuve pour autre rendez-vous. » Lucie sentit un frisson la traverser alors que les connexions s'établissaient dans sa tête, que les zones d'ombre s'éclaircissaient avec une effroyable froideur. Elle prit le message en photo avec son téléphone portable. Elle avait beau ne rien savoir de l'enquête et naviguer à vue, ces quelques mots étaient parfaitement clairs. Celui qui kidnappait ses filles n'était qu'un entremetteur. Il venait dans ces différents endroits pour livrer ses colis humains.